Conversations urbaines et architecturales, une émission présentée par Myriam Schwartz, architecte et urbaniste sur Radio Immo.
Chers auditeurs, bonjour, bonjour et belle rentrée. Oh, qu'est-ce que je suis ravie de vous, voilà, de vous parler dans le micro. Écoutez, on va se souhaiter que des belles choses, d'autant plus qu'on va avoir sûrement des élections législatives, des élections municipales, puis des élections présidentielles. Tout ça en essayant de dynamiser notre beau secteur qui est celui de la construction. Que de belles choses. Bon, alors, pour dynamiser ce secteur, il y a la filière hors site, par exemple. Je reçois aujourd'hui Léa Delpech, qui est chef de projet dans l'association hors site, donc filière hors site. Bonjour Léa.
Bonjour.
Bon, évidemment, tout le monde est au CIPCA, tout le monde connaît le CIPCA, mais il y a surtout un certain nombre de préjugés, et un certain nombre de choses, de bruits de couloir, on va dire, sur le hors-site. On va essayer aujourd'hui de tordre le cou aux préjugés. On est d'accord ?
Oui.
Bon. Alors, déjà, on va parler de ce premier prix, puisque c'est la première fois que la filière hors-site a choisi des projets dans des catégories quand même assez variées. Et donc, du coup, moi, ma première question, c'est comment choisit-on ? Comment fait-on une fois qu'on a lancé un appel à candidature, qu'il y a un certain nombre de candidats qui se sont dit « mon projet » est un projet hors site. Il a des qualités, qui vont bien avec cette nouvelle manière de faire du hors site séduisant, peu coûteux, qu'avec des qualités, aucun défaut. Comment fait-on ?
Le choix a pas été simple, en effet, surtout parce que c'est le premier prix, donc comment on traite le sujet. Ouais. La question, surtout, le but était de donner de la visibilité sur quel type de projet on peut avoir en hors-site finalement. Donc on a d'abord regardé ce qu'on a reçu, une belle analyse. Sûr,
Donc comment s'est composé le jury ? Alors, c'est important de...
Alors il y a un jury qui est construit alors pour une deuxième étape, pour l'étape des oraux et des visites de sites des projets. Donc ça c'était important pour nous de bien visiter les sites.
D'accord. Donc,
savoir vraiment ce que ça
donc,
peut
c'est
être.
C'est obligatoirement des sites construits.
Construits.
On peut pas avoir des...
Il y a un délai qui a été défini, donc d'accord. C'est des projets qui datent de 2 ans et demi maximum et qui ont été finis cet été maximum.
D'accord.
Donc, voilà, il y a un délai précis. Et voilà, donc pour vraiment voir ce que ça donne en vrai et pas avoir juste des images et jauger des projets dans des dossiers écrits.
Donc jury, deux types de jury, c'est
ça ? Donc il y a un jury et ensuite il y a un comité scientifique qui d'accord. est venu en amont et qui a ouvert les dossiers et qui les a analysés, sélectionnés pour qu'ils soient crédibles pour passer les oraux et visiter les sites.
D'accord, donc
il y a une première étude.
Pas que l'image qui...
Tout à
c'est
fait.
Ça.
Ouais. Il y a une étude très technique en fait. Le comité scientifique est plutôt orienté technique. On a plutôt des... Il y a quelques architectes, mais il y a aussi des ingénieurs environnementaux. Donc il y a eu une analyse plus technique des sujets et savoir s'ils étaient vraiment qualitatifs dans leur aspect plus technique, environnementaux,
hors-site
et économique. Donc bien regarder en détail ces projets-là sur l'aspect plus technique pour ensuite juger la partie plus architecturale avec un jury qui est un petit peu plus constitué d'architectes, mais quand même assez varié.
Alors, j'ai vu les panneaux. On va essayer de décrire à travers les ondes des images. C'est ce qui est pas toujours facile. Donc, il y a majoritairement des logements, c'est ça ? Est-ce que le logement, c'est plutôt, on va dire, la filière, le hors-site est plutôt affecté au logement pour l'instant ?
Dans les candidatures reçues, oui. Alors, on était un peu surpris là-dessus, c'est-à-dire qu'on s'attendait à avoir, par exemple, plus d'équipements publics. On avait créé une catégorie là-dessus, on n'a rien reçu là-dessus, presque. Mmh.
Est-ce que l'administration, pour l'instant, met dans ses cahiers des charges
Justement, on l'aide c'est un autre sujet, on peut le traiter après
ça
si vous voulez.
Ça sera peut-être pour, le deuxième prix, l'année prochaine.
Exactement, c'est ça. Donc là, c'est un vrai constat de voir qu'aujourd'hui, les candidats sont plutôt sur des projets de logement. On a même fait deux catégories logement, une catégorie habitée, une autre catégorie habitée, la densité, donc plus spécifique. Et du coup, on se retrouve sur quelques projets de logement. On a aussi des projets de bureaux avec une catégorie travaillée. On a aussi une catégorie de réhabilitation qui nous paraissait quand même importante. On a reçu quand même pas mal de projets là-dessus.
Ouais. Parce que la réhabilitation, aujourd'hui et demain, ça sera 75 voire 80% des projets, par exemple, en Île-de-France.
Tout à fait, c'est une des priorités dans la construction d'aujourd'hui et de demain, et le hors-site a toute sa place là-dedans, donc on voulait aussi montrer ça, voilà, et certains projets qui ont été faits avec des solutions hors-site.
Alors, est-ce qu'il y a eu des belles surprises? Essayez de justement faire en sorte que, voilà, faire parler les images.
Ça, on a des projets très très variés, donc ça c'était vraiment intéressant, surtout par rapport au CIPCA, au débat qu'il y a pu avoir, aux a priori qu'il peut y avoir sur le hors-site, etc. Donc évidemment, ça traite les sujets de la rénovation qui est souvent des projets de grands ensembles, etc. Donc là, le hors-site y répond facilement, on va dire. Mais le hors-site répond aussi à différentes typologies de projets. Et on le voit, en fait, vraiment la variété des rendus dans ce prix. Et de variété de matériaux utilisés, de techniques utilisées, de dimensions de 3D qui ont pu être mises en place. Et nous, on a questionné aussi les candidats dans leur manière de faire le projet, parce qu'on fait le projet différemment hors site.
Ça veut dire qu'on travaille obligatoirement, on se force à faire en sorte que son cerveau soit dans le modulaire, c'est-à-dire son cerveau réfléchisse, module, et ne réfléchisse pas un peu poétique.
Voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on va mettre des objectifs en amont qui sont, je sais pas, des objectifs de temps,
de rationalité,
de rationalité, etc. Donc en fait, on va penser comme ça. On va aussi travailler avec des industriels en amont des projets. On va peut-être pas les consulter un peu plus tard comme on le fait peut-être habituellement. Et on va vraiment travailler avec l'industriel et remettre un peu la technique constructive dès la conception des projets.
Dans les projets qui ont été choisis, il y avait vraiment une interaction importante avec les industriels et les entreprises affiliées.
Voilà, c'est l'enjeu du hors-site, en fait. On est un peu obligé de travailler tous main dans la main au début. Et voilà, il y a vraiment une manière de travailler ensemble dès le début. Ouais. C'est vraiment une autre manière de voir les choses sur cet aspect-là.
Bon, alors, donc, les surprises et les images.
Et les images, on a des choses très variées. On a des projets alors, dans le logement, on a aussi montré des choses très variées. C'est parce qu'on a reçu des dossiers très différents et on a des projets qualitatifs très différents. Il y a des projets de maisons individuelles, par exemple, alors qu'ils sont peut-être pas applicables dans les réponses qu'on veut apporter dans le logement en France où le besoin est immense.
Ouais, on essaye de pas miter le paysage.
Par exemple, mais voilà, on a des choses qui ont été très très bien faites, donc on a aussi voulu montrer que ça pouvait se faire à cet endroit-là, mais on a aussi des beaux projets de logements sociaux, mais pas que. Il y a des projets qui sont faits, je sais pas, par exemple au bord de la Seine, et qui ont été les éléments ont été apportés sur la Seine, donc avec des déplacements
fluviaux.
Ils sont
pas en zone PPRI, ils risquent pas de partir avec une montée des eaux.
Non, bah, je pense que ça a été réfléchi,
c'est
ça.
D'accord, c'est juste pour être sûr.
Penser à long terme, tout à fait. Et voilà, et du coup on est très variés dans les densités de projets, dans les hauteurs, dans les matériaux, dans les endroits où ils sont faits. Donc voilà, il y a des projets en montagne aussi, des bureaux, donc ça c'est assez particulier, mais qui sont aussi très bien faits dans la conception du projet. Donc en fait, on a les images sont très très variées. Donc ça c'est assez intéressant à voir dans les contextes où c'était. Après, les dossiers reçus, c'est vrai que géographiquement on a reçu la moitié des projets en Île-de-France.
D'accord.
Donc
ça
on se rend compte que c'est quand même peut-être aussi une question de réseau de l'immobilier qui est quand même pas mal sectorisé ici. On aimerait que ce soit un petit peu plus élargi quand même dans les prochaines années.
Mais est-ce qu'on a l'impression qu'il y a certains projets qui sont vraiment réplicables tout en gardant l'image, une image avec une contextualisation du projet? Parce qu'effectivement, on n'a pas envie d'avoir des projets qui soient comme dans les années 60 où on a dû, pour la reconstruction, faire du chemin de grue. Je vais pas vous détailler ce que c'est parce que j'aurais l'impression d'avoir 100 ans. Mais l'idée, c'est aussi, je suppose, d'être extrêmement dans le contexte. Donc, qu'est-ce qui fait que on est à la fois dans un contexte économique et une filière qui a besoin de prouver qu'elle existe et qu'elle existe qualitativement et économiquement viable, mais qu'il y a une accroche de contexte qui est importante.
Oui, c'est ça. C'était un peu le but de ce prix aussi, c'était d'enlever ces peurs-là de l'industrialisation de la construction qu'on connaît d'après-guerre et dont tout le monde a très peur. Et on voulait enlever un petit peu ces peurs-là et voir qu'on a des projets de logement qui sont tous très contextualisés. On a des projets qui ont bien développé le système hors-site et qui finalement sont très contextualisés dans leur travail de façade, de volume, etc. Et on a des projets qui sont très bien intégrés dans leur environnement bâti et très différents. On a des projets dans la catégorie habiter la densité. Voilà, on est en plein cœur de Paris pour la plupart des projets qui ont des hauteurs assez importantes, etc. Et les projets sont très différents. Donc ça fait... Voilà, on montre qu'on peut vraiment adapter à chaque site et pourtant industrialiser une partie de la construction et répéter des choses.
Je fais exprès de retenir le mot « une partie » parce que dans le hors-site, on a quelque part le sentiment que c'est sectaire et que c'est pas in situ. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut être hors-site et in situ ou est-ce qu'on est que hors-site et puis point à la ligne? Et donc ça, c'est vrai que ce message-là, pour l'instant, moi, j'ai le sentiment qu'il n'est pas encore passé.
Tout à fait. Et en fait, l'association est là pour parler du hors-site, mais pas pour promouvoir que le hors-site du tout. On est vraiment dans la réflexion. C'est-à-dire que le hors-site vient réfléchir et questionner aux enjeux auxquels on fait face aujourd'hui. On voit que le hors-site peut apporter des solutions. Et en fait, on se questionne beaucoup sur comment, quoi faire. En fait, on est vraiment dans un retour de l'industrialisation de la construction et on se repose beaucoup de questions aujourd'hui et sur ce hors-site de comment l'appliquer. Il y a vraiment des manières de l'appliquer, des contextes où on peut l'appliquer oui ou non. Et on croit beaucoup à la multimatérialité, aux multitechniques, etc. Donc
qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui justement pour faire en sorte que les cahiers des charges de ceux qui font les cahiers des charges des concours, des appels à projets, que ce soit chez les urbanistes ou chez les bailleurs ou les promoteurs, justement cette mixité, elle est mise en avant, parce que sinon on a l'impression que s'il n'y a pas hors-site, c'est point de salut, quoi.
Oui, tout à fait. On est vraiment. Alors, on se rend compte qu'il y a un accompagnement de la filière qui est global et auprès de tous les métiers, de convaincre peut-être des architectes qui ont peur d'aller vers là. Enfin, il y a tous les métiers à revoir, vraiment de tous les côtés, des ouvriers, des industriels, enfin de tout le monde, et notamment de la maîtrise d'ouvrage qui est quand même là en amont des projets. Et on travaille beaucoup là-dessus avec la filière. On a notamment sorti un guide de la commande publique qu'on va sans doute répliquer ensuite d'un compte privé, mais on s'est d'abord attaqué à la compte publique et on se rend compte en effet que les cahiers des charges sont pas toujours réalisables ou voilà, un petit peu trop ambitieux parfois, dans des orientations trop orientées dans une direction. Donc en fait on essaye un peu d'aider, d'accompagner les maîtrises d'ouvrage et surtout public pour l'instant sur comment faire en fait et comment écrire des cahiers des charges. On arrive vraiment à des solutions possibles.
Bah Léa, on n'a pas fini le sujet. Hein. Je pense que ça mérite une deuxième interview. Qu'en pensez-vous? Vous venez à mon micro de nouveau, ça va?
Avec plaisir.
Bon, bah merci chers auditeurs. Et la semaine prochaine, la suite. Ah là là, qu'est-ce qu'on a encore à apprendre sur la filière hors-site? À bientôt sur nos antennes.
Conversations urbaines et architecturales, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.